j'ai quand même travaillé chez une coopérative de consommation dans le cadre d'un programme international coopératif. Alors d'autre part, je fais partie d'une association locale qui s'appelle oui. Histoire et Mémoire du Troisième, qui s'intéresse au mouvement de population, au mouvement populaire, à ce qui est advenu à la population de ce quartier, etc. Et c'est dans ce cadre que je me suis dit, mais y a-t-il pas eu dans le temps, dans le futur, une coopérative de consommation en Troisième? Donc il y en avait eu une, et qui avait démarré de surcroît, ça nous intéresse tout particulièrement, 75 rue de Turenne. Donc c'est une affaire qui a commencé en 91, mais qui va commencer à nous intéresser particulièrement en 92, vous allez voir pourquoi. Un soir de printemps 92, les habitants du quartier étaient assez nombreux à se rendre justement aux 75 rue de Turenne, dans un local tout à fait modeste, au fond de la cour, pour entendre une conférence sur la coopération, à laquelle les avaient invités des petites affichettes à poser sur les murs du quartier. Alors les organisateurs de cette conférence cherchaient par ce moyen à recruter des adhérents pour une coopérative de consommation qu'ils avaient eux-mêmes établie un an plus tôt rue de Turenne, un peu par hasard d'ailleurs, parce que les initiateurs de cette coopérative n'étaient pas des gens du quartier. C'était un groupe de comptables qui provenait, si je puis dire, d'une association des comptables qui avait été fondée dans les années 1860, et un groupe de comptables, au nombre de 59, s'était mis en tête de créer une coopérative de consommation. Un groupe de comptables qui travaillait ou qui habitait dans différents arrondissements parisiens, et je pense donc que c'est par pur hasard qu'ils ont, en cherchant un local pas trop cher, etc., etc., qui sont tombés sur ce 75 rue de Turenne. Alors, ces comptables avaient prévu dans leur statut de n'accueillir que les comptables. Ils n'ont pas fait beaucoup d'adhérents, et au bout d'un an, en dehors des 59 de départ, il n'y en avait qu'une dizaine de plus. Et la coopérative vivotait, la situation financière n'était pas brillante, l'avenir s'annonçait plutôt sombre, donc l'initiative d'une conférence de propagande, dirait-on, pour sensibiliser la population du quartier aux avantages de la formule coopérative. Et il faut convenir que ce soir-là, au moins, leurs espoirs n'ont pas été déçus, puisqu'à l'issue de la conférence, ils avaient fait 18 nouveaux adhérents. Ces nouveaux membres, ce n'étaient pas les comptables du tout, ils appartenaient presque tous aux couches populaires. Pour la plupart, ils étaient impliqués dans le mouvement socialiste. Et je vais vous dire qu'ils n'avaient pas eu besoin des comptables pour savoir ce que c'était que la coopération. En outre, ils connaissaient les difficultés financières de cette coopérative, de l'économie parisienne. Aussi, entrèrent-ils dans cette jeune coopérative avec la ferme détermination d'y prendre le pouvoir. Leur première tâche fut, à l'été 92, l'été qui a suivi, à l'Assemblée Générale, de faire voter de nouveaux statuts qui, évidemment, supprimaient la clause sur laquelle il fallait être comptable pour rentrer là, et également d'autres mettaient en place une autre organisation qui dépossédait les fondateurs des prérogatives qui avaient été les leurs jusque-là. Alors, cette opération, évidemment, s'est faite au détriment de ces pauvres comptables de départ, mais en revanche, la coopérative, elle, a commencé de prospérer, puisque un an après ce putsch, les sociétaires étaient au nombre de 116, et moins de 3 ans plus tard, la coopérative comptait 420 membres. Elle allait faire beaucoup mieux par la suite. Alors, qui étaient ces coopérateurs? Ces coopérateurs exerçaient des métiers reflétant à peu près la structure socio-professionnelle du quartier. C'est-à-dire qu'il y en avait à peu près le tiers qui travaillaient les métaux. Métaux ordinaires ou bien métaux précieux, or et argent. Ils étaient couteliers, estampeurs, ferblantiers, sertisseurs, bronziers, mécaniciens, ou bien pour ceux qui travaillaient les métaux précieux, doreurs, argenteurs, ciseleurs, polisseurs et évidemment bijoutiers. Donc ça pour un tiers venait ensuite, mais ça reflète vraiment la structure du quartier, venaient ensuite les métiers liés au travail des étoffes, des cuirs, des peaux. Donc il y avait pas mal de tailleurs, de possiers, fabricants de bretelles, des casquetiers, des selliers, cordonniers, etc. Le troisième groupe qui progresse d'une année sur l'autre de façon relativement importante, ce sont les métiers qui sont liés au commerce. progresse également, dans le même temps, dans une moindre proportion, tous les métiers liés à l'imprimerie. Le nombre d'imprimeries dans le quartier, en quelques années, se développe de façon incroyable. Enfin, en 1910, on peut dire qu'un tiers des coopérateurs travaillaient dans les métiers liés au commerce. Donc ça, c'est les activités. En dehors de ça, bien, la plupart d'entre eux habitaient les rues du quartier Saint-Avoie. Quartier Saint-Avoie, vous voyez à peu près où c'est, du côté de Beaubourg, qui était à l'époque le plus défavorisé de l'arrondissement. Bon, ils habitaient rue des Gravilliers, rue Chapon, rue Montmorency, rue Homer, mais ils habitaient également le quartier des Enfants Rouges et essentiellement rue Charlot et rue de Saint-Onge. Compte tenu de la structure des maisons, ils habitaient en général de très petits appartements, une pièce ou deux, en plus de la cuisine, avec parfois un atelier, voire pour un certain nombre d'entre eux, y compris munis de famille, parce que c'était pas du tout original à l'époque d'être si mal logé, une chambre au dernier étage, avec ou sans cheminée, et souvent mansardée. Il faut dire que dans ces années tournant de siècle 1900 dont nous parlons, le troisième ressemblait encore beaucoup à ce qu'il avait été sous l'Ancien Régime. Un enchevêtrement de rues obscures, bordées de maisons hautes et étroites, plus de 9 maisons sur 10, ce qui me paraît un peu étonnant, mais c'est comme ça, comptaient 5 étages ou plus, imbriquées les unes dans les autres, autour de cours et d'arrière-cours, peuplées des shops et d'ateliers. L'arrondissement comptait alors 90 000 habitants, c'est-à-dire presque 3 fois plus qu'aujourd'hui. Rapidement, avec l'afflux de ces nouveaux adhérents, le local de la rue de Turenne s'est avéré beaucoup plus étroit, et après un assez bref passage rue Pastourelle, dans une boutique modeste aussi, mais qui au moins donnait sur rue, mais où il ne restait pas très longtemps, l'économie parisienne s'installe rue des Gravilliers, qui était une des rues les plus animées du quartier. Toutes les maisons, sans exception, ont des boutiques en rez-de-chaussée, modestes pour la plupart, dont les exploitants habitent sur place, dans l'arrière-boutique ou bien dans une pièce ou deux au premier étage, auxquelles ils accèdent par des escaliers intérieurs. Parmi toutes ces boutiques, les marchands de vin sont les plus nombreux. Sur les 88 maisons que compte la rue des Gravilliers, 31 abritent un débit de boissons, voire deux. Sans compter la buvette que tenait notre coopérative, l'économie parisienne. Donc, une densité forte de débit de boissons, mais il y a des rues qui font mieux. Dans la rue de Saint-Onge, c'est exactement la moitié qui compte un ou deux débits de boissons. Il faut dire qu'à l'époque, je fais toute petite parenthèse, c'est encore un peu vrai maintenant, mais ça l'était bien plus à l'époque, on allait au débit de boissons, au cabaret, pas uniquement pour boire aussi, mais pas uniquement. C'était un lieu important de convivialité, d'autant plus important que les appartements étaient si petits qu'on ne pouvait pas s'y réunir. Donc c'était tout de même tout à fait inscrit dans les mœurs que de se retrouver pour bavarder, pour échanger des trucs, pour discuter politique, pour recruter des adhérents, des syndiqués, etc. Tout ça se passait dans les débits de boissons, et c'est sans doute une des raisons, à côté des risques que faisait courir l'alcool à la population ouvrière, mais cette activité importante de débat politique, etc., c'est une des raisons pour lesquelles je dirais que la bourgeoisie avait vraiment les débits de boissons dans le collimateur. Alors la coopérative s'installe au 29, rue des Gravilliers, au rez-de-chaussée d'une vaste demeure du vaste, toutes ne sont pas vastes, mais celle-ci est une demeure importante, avec des bâtiments sur cour, une demeure du XVIIe siècle, où donc elle va occuper, sur les 4 boutiques qui sont en bas de l'immeuble, elle va occuper une, puis 2 boutiques, les arrière-boutiques de ces boutiques, une partie de cour couverte et 2 petites pièces au premier étage auxquelles on accède aussi par un escalier intérieur. Par rapport à ces domiciliations antérieures, rue Turenne ou rue Pastourelle, c'est le luxe. C'est le luxe absolu. Les 2 autres boutiques à l'époque où s'installe l'économie parisienne sont louées à un brossier et pour la plupart, les habitants de l'immeuble travaillent et résident sur place. Alors, ce sont quoi? Ce sont des blanchisseuses, comme on disait, de fin, linge fin, des fabricants de moulures, de serrures, de jarretières, des passementiers, des couturières, tourneurs sur bois, et également d'instruments de chirurgie qui ont connu une petite histoire particulière, un peu à la marge, mais pas dans la même époque, puisque un certain nombre des ouvriers de cette petite fabrique d'instruments de chirurgie, qui étaient accoutumés en fin de semaine d'aller se promener aux alentours de Paris avec leur petite famille, sont un jour tombés en arrêt devant des terrains qui étaient à vendre à Athis-Mons. Ils ont créé une société pour se partager ces terrains qui devaient leur permettre de passer les fins de semaine et de faire des petits jardins qu'on appelait les jardins ouvriers. Et celui qui existe, je crois, toujours à Athis-Mons s'appelle là-bas la Villa des Graviers. Ce n'était pas du tout pour y habiter, mais c'était des gens qui travaillaient voilà, au 29 rue des Graviers. Donc c'est là aussi que l'économie parisienne a pris son essor à quelques pas d'établissement du grand commerce moderne qui commençait à s'installer dans le quartier. Damois, Familistère, Félix Potin. Et que donc l'économie parisienne s'embarqua là dans une aventure qui allait durer 25 ans. Dans les années 1890, le mouvement coopératif de consommation est en plein essor. On compte alors 1000 sociétés coopératives en France, 34 dans la Seine, qui est à cet égard un des mieux lotis, avec le Nord, qui est en tête, et rien qu'à Paris, 13 coopératives disséminées dans les arrondissements les plus populaires. Ça, c'est dans les années 1890. En 1910, les coopératives de consommation à Paris seront au nombre de 52, ce qui est considérable. Alors, les statuts des coopératives de consommation, il y a quelques mots, elles se fondent sur un certain nombre de principes. Premier principe, la participation égalitaire des membres au capital social. Quel que soit le nombre de parts que vous détenez, vous avez une seule voix. Deuxième principe, la redistribution d'une partie des excédents aux coopérateurs au prorata de leurs achats. C'est ce qu'on appelle la ristourne. Le refus catégorique pour des motifs absolument éthiques de la vente à crédit. Un autre principe, c'est celui que l'on appelle de la porte ouverte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un se présente pour adhérer à la coopérative, s'il est un citoyen sans problème, on ne peut pas le refuser. Et enfin, le dernier principe que j'évoque souffrira assez rapidement des exceptions, c'est la vente exclusive aux actionnaires. Notre économie parisienne est une des premières, je crois, à avoir renoncé à ce principe. On comprend bien pourquoi. Quand on accepte de vendre non pas seulement aux sociétaires, mais au public, évidemment qu'on a des chances de faire un volume de chiffre d'affaires plus important et donc de bénéficier de meilleures conditions d'achat auprès des fournisseurs. Alors, en principe, ce public tout venant ne bénéficie pas de la ristourne, à la différence des coopérateurs. Mais cette ristourne elle-même sera finalement abandonnée, bien qu'elle ait dans les coopératives une autre valeur symbolique, parce qu'on voit bien qu'il y a une contradiction là-dedans. Si on pratique un taux élevé de ristourne, évidemment, ça fidélise les coopérateurs et ça favorise le recrutement de nouveaux membres, mais d'un autre côté, ça prive la coopérative de ressources pour investir et se moderniser. Alors, selon les coopératives, selon les années, évidemment, le montant de la ristourne allait de 1 à 2%, mais parfois jusqu'à 12 ou 13%. J'imagine que dans ces cas-là, il n'y avait pas beaucoup d'investissement. Alors, presque tout le monde peut adhérer à la coopérative. Elle s'accommode de revenus très modestes, puisque la participation au capital, qui est généralement de l'ordre de 50 francs, soit à peu près dans les parages du salaire hebdomadaire d'un employé de commerce. Ces 50 francs sont acquittés pour le dixième au moment où on adhère et ensuite par prélèvement mensuel de 1 à 3 francs. C'est quand même accessible à pas mal de gens. Alors, dans les années 1890, et en fait jusqu'en 1912 où on aura une unification, dans les années 1890, le mouvement coopératif ressortit à deux courants. Il y a le courant socialiste, la mouvance socialiste, puisqu'à l'époque, il y a différents mouvements socialistes, et d'autre part, un autre courant, je vais dire neutraliste, pour lequel la coopérative ne doit être affiliée à aucun parti, à aucun syndicat, à aucune église, à aucune classe sociale. Elle doit seulement rassembler les gens qui voient dans l'idéal coopératif un moyen qui n'est ni socialiste ni capitaliste de mettre en place une société égalitaire. C'est l'utopie coopérative. Pour sa part, l'économie parisienne a choisi son camp qui est celui du socialisme, et un socialisme relativement radical. 16 autres coopératives parisiennes ont fait le même choix. Tous les membres du conseil d'administration de l'économie parisienne appartiennent à un groupe socialiste ou à un autre, sont syndiqués ou adhèrent à l'université populaire de l'arrondissement. Pour les sociétaires de l'économie parisienne, la coopération, c'est le socialisme en action. En 1910, la coopérative paraît au fait de sa gloire. Elle compte plus de 1000 adhérents, elle a 3 magasins, en dehors de celui de la rue des Gravilliers, elle en a ouvert un rue Greneta et un rue du Poitou, elle occupe 18 salariés et elle a un chiffre d'affaires de plus de 300 000 francs. Donc cette économie parisienne, la coopérative de consommation du 3e, on peut dire que sans être parmi les plus grandes, elle occupe une place tout à fait honorable dans le paysage coopératif parisien. Et ses réalisations sociales et culturelles, dont on va dire maintenant un mot, font à juste titre sa fierté. Dès 1899, je fais là encore une toute petite parenthèse, il faut voir ce que c'est les conditions de vie et les conditions de travail à l'époque pour mesurer ce que représentaient comme avantage les coopératives de consommation et celles-ci en particulier. Dès 1899, elle a créé une caisse de solidarité qui verse une allocation en argent aux veuves, aux enfants, aux pères ou mères que la mort d'un sociétaire aurait privé de leur soutien effectif. Elle a également créé une caisse de prêts gratuits qui permet d'aider sur une période courte des sociétés qui connaissent des difficultés financières momentanées, notamment pour des faits de grève. La même année encore, elle a instauré une caisse de propagande pour prendre part aux luttes engagées, et maintenant je fais une citation, contre le patronat exploiteur par le prolétariat exploité. Mais ce n'est pas tout. Une année plus tard, l'économie parisienne a instauré un service médical gratuit, assuré nuit et jour par 2 médecins de l'arrondissement que la coopérative rémunère. Dans l'attente de pouvoir ouvrir une pharmacie, ce qui à l'époque, compte tenu de la réglementation, est particulièrement difficile à une coopérative, l'économie parisienne a passé des accords avec plusieurs pharmaciens du quartier pour avoir des tarifs réduits. Et en plus de tout ça, les coopérateurs disposent de consultations juridiques gratuites qui sont dispensées par un avocat qui exerce rue d'Arcole. Vis-à-vis de son personnel, la coopérative a aussi une politique relativement hardie pour l'époque. Elle a créé une caisse de retraite. Et par ailleurs, sa politique marque des avancées relativement rares pour l'époque. La journée de travail, ça va nous paraître un peu étrange, mais enfin, c'est déjà un progrès important pour l'époque. La journée de travail est limitée à 10 heures maximum. Et la coopérative a le projet de passer à 8 heures. Le personnel a droit à un congé de 8 jours consécutifs rémunérés. Ça n'existait pas à l'époque. Et en cas de maladie, le premier mois, le malade perçoit demi-salaire. S'il s'agit d'une maladie grave qui dure, salaire complet. En outre, en 1908, la société a ouvert un café-restaurant coopératif rue de Bretagne, installée dans une maison commune que les républicains et les socialistes de l'arrondissement ont installée au 49 rue de Bretagne. C'est pas tout, elle a également créé une bibliothèque sociologique. Un cercle de coopérateurs destiné à initier, des coopérateurs dont certains ne savent pas exactement ce que c'est, pour les initier à la coopération. Elle offre des cours de solfège, de chant, de mandoline, de piano et aussi des conférences éducatives qui, il faut en convenir, n'ont pas le succès escompté. Mais la grande affaire de l'économie parisienne en matière culturelle, c'est l'organisation de 2 grandes fêtes annuelles, l'été et l'hiver. Et on a le programme extrêmement séduisant de la fête qu'elle a organisée, parce qu'on a l'affiche, 4e grande fête familiale d'été, C'est le dimanche 7 août 1904 dans la forêt de Sénart. Ça comprend excursion en bateau spécial, excursion en voiture, déjeuner de midi à 1h, fête familiale, grand bal à grand orchestre. Enfin, c'est le meilleur, dîner, retour à Paris. Enfin, donc, c'est un programme absolument somptueux. Et je peux vous dire que ça occupe énormément. Quand ensuite la coopérative a commencé à avoir, ça ne va pas tarder, des difficultés financières, il y en a toujours quelques-uns qui suggèrent qu'on pourrait peut-être renoncer aux fêtes d'été et d'hiver. Il n'en est pas question. Tout n'est pas ça. Et même un jour, je crois qu'il prévoit un déplacement à bord de la mer pour se consoler des misères qui ne va pas tarder à leur arrivée. Donc, j'ai eu entre les mains les assemblées générales de cette coopérative pendant toute son existence. Et c'est une source précieuse à un point inimaginable, parce que d'abord, ça nous raconte ce qui se passe dans la coopérative, les problèmes, les contradictions, les difficultés, les positions des uns et des autres, mais ça nous dit aussi beaucoup de choses sur le type de rapport que les gens avaient entre eux et qui n'étaient pas tristes. J'ai dit que ces contrôlés assemblées générales reflètent, bien sûr qu'ils expriment les questions que se posent les coopérateurs, les problèmes que leur soumettent les administrateurs, mais ils reflètent aussi très bien les contradictions auxquelles sont confrontés les coopérateurs en raison de leur double qualité d'être d'un côté des consommateurs comme tout le monde, et d'autre part des militants. Alors la question de Joël Buiter est particulièrement éloquente à cet égard, parce que d'un côté, en tant que consommateurs, ils veulent absolument tenir les prix, et bien entendu qu'ils sont portés à refuser une mesure qui accroîtrait les frais généraux, mais en tant que militants, c'est une autre paire de manches. Et là, ce sera une citation, ils estiment qu'il serait désastreux que l'organisation ouvrière comme la nôtre n'arrive pas à appliquer les revendications que nous exigeons des capitalistes. Ceci étant, ils ne l'appliqueront jamais. Alors, ces coopérateurs sont, comme je l'ai dit, des militants socialistes convaincus. Nous sommes donc là dans les années 1905, 1907, 1908, 1911. C'est une période où on assiste à une recrudescence des grèves qui sont matées avec pas mal de sévérité, et ces coopérateurs vivent comme une trahison vis-à-vis de la classe ouvrière, les mesures qui sont prises par le gouvernement Clémenceau pour juguler l'agitation. Ils vivent comme une trahison les arrestations de responsables syndicaux, la répression qui s'abat sur les grévistes. La mort d'homme, abattue par la troupe, vous imaginez l'ambiance dans notre coopérative. La plupart des assemblées générales débutent par des prises de position politique. On rédige des papiers qu'on envoie pour être publiés dans le journal socialiste L'Humanité. Alors donc, vis-à-vis de ces mouvements, les coopérateurs ne se contentent pas de parler ou d'écrire, ils organisent également des souscriptions ou des quêtes à la fin de leurs assemblées générales au profit des travailleurs en lutte qui peuvent être les cochers, les casquetiers, les facteurs, etc. À chaque fois, on peut dire qu'il y a à la sortie une souscription. Mais bien sûr, on discute aussi en assemblée générale de questions qui intéressent la gestion au quotidien, de petites questions. Vu de l'extérieur, mais qui sont importantes pour eux. Est-ce qu'on va supprimer des rayons déficitaires? Est-ce qu'on va ouvrir de nouveaux rayons? Comment fonctionnent les caisses? Est-ce qu'on ne devrait pas choisir des caisses plus modernes? Vous connaissez la coupe des caisses plus modernes? On laisse tomber, on donne pas suite. La qualité des produits. Alors, la qualité des produits, c'est un vrai problème. Vous imaginez bien que ces coopérateurs, c'est pas leur métier d'être des acheteurs ou des épiciers, etc. Donc, ils se font avoir. D'autre part, il y a un problème récurrent, c'est celui des pots de vin, qui était une pratique absolument habituelle. Pots de vin aux fournisseurs, pots de vin aux employés, et puis même il y a un certain nombre de coopérateurs qui sont accusés, à tort ou à raison, d'avoir aussi touché. Hein? Et cette histoire des pots de vin était si usuelle comme pratique qu'on avait un néologisme, on parlait des pots de vignier. Les pots de vignier, c'est ceux qui touchent, pour être pots de vignier actifs ou passifs. Bien entendu. Autre sujet récurrent, c'est l'histoire de la buvette. On peut dire que c'est un sujet qui vient à peu près à chaque assemblée générale. Il y a les tenants de la fermeture de la buvette. au nom de l'hygiène et de la morale. Ce n'est pas possible qu'une coopérative soit déshonorée par cette buvette dans laquelle il faut convenir que bien assez souvent des gens ne sont pas nets, etc. D'ailleurs, disent certains, moi je n'envoie pas ma femme faire les courses parce que si on voit la buvette, c'est répugnant. Bon, et puis c'est une morale, très mauvaise image donnée à la coopérative. Et après, il y a ceux qui font quand même, vous savez, que d'accord, il y a quand même une source de revenus qui n'est pas négligeable. Donc je peux vous dire qu'elle n'a jamais été fermée. Sur ce point, comme sur toutes les questions qui sont en débat, les accusations sont portées en Assemblée Générale sans ménagement. Les rapports entre les coopérateurs eux-mêmes, entre les coopérateurs et leurs administrateurs, sont souvent tendus. On ne s'épargne pas, on ne prend pas de gants pour se parler. Les coopérateurs ont une conception et une pratique qu'on pourra dire exigeante de la démocratie. Conseil d'administration qui a démérité sur un point quelconque, enlevé, pesé, liquidé, il n'a même pas à s'expliquer, ça va comme ça, on passe au suivant. Et à l'encontre de ceux, des membres de la coopérative, qu'on soupçonne de ne pas jouer le jeu, et vous verrez tout de suite après ce que ça signifie, on s'encombre par un peu de périphrase, la sanction est expéditive, l'accusé est radié de la coopérative, définitivement pour un temps seulement. Alors c'est radié, dont il n'est pas clair toujours s'ils sont radiés définitivement ou provisoirement, en général font, comme on pourrait dire, assez de foin aux assemblées générales. Tout d'un coup, on découvre qu'il y en a un qui est censé être radié qui est là. Il est parti à la discussion. C'est assez lourd comme ambiance. Dès 1906, apparaissent dans les débats des signes précurseurs des difficultés qu'a réglé la coopérative. Le sujet, c'est qu'il s'avère qu'il y a des sociétaires qui achètent le strict minimum à l'économie parisienne, juste assez, pour bénéficier des avantages sociaux, particulièrement des soins médicaux gratuits, et pour le reste, ils s'adressent à la concurrence capitaliste. En 1909, la situation se dégrade, mais nos coopérateurs n'en prennent pas tout de suite conscience. Pourtant, on constate une baisse sensible du chiffre d'affaires, et du nombre de coopérateurs. Et ça va se poursuivre. Et il faut bien tout de même qu'ils se rendent à l'évidence, et ils finissent par se rendre à l'évidence, à mesure que le temps passe, les marchandises vendues par la coopérative sont plus chères que ce qu'on peut se procurer ailleurs. Et certains coopérateurs disent, et de surcroît, de moins bonne qualité. En gros, on estime que selon les articles, la coopérative vend à peu près 20% plus cher que ses concurrents. Donc les bénéfices s'amenuisent, donc le taux de ristourne aussi. Et tout d'un coup, on prend conscience de la menace que fait peser sur la coopérative l'installation à sa proximité des succursales des grandes maisons d'alimentation. On est en 1909. Ces grandes maisons d'alimentation, elles étaient déjà en place en 1890. Mais on a le sentiment que les coopérateurs n'ont pas vu. Ils étaient tellement pris dans leur enthousiasme, tellement pris dans leur certitude d'être dans la vérité, que ce n'était pas pensable pour eux que ces monstres puissent leur faire concurrence. C'était autre chose, ils n'avaient rien à voir. Pourtant, il faut dire que Félix Potin, sur le boulevard Sébastopol, il a investi 4 immeubles, au rez-de-chaussée desquels il tient boutique, et de surcroît, il loue des appartements dans ces immeubles pour loger son personnel. Il faut vous dire qu'à l'époque, les caissières couchent en dortoir chez le patron. Quant à l'immeuble qui est à l'angle de la rue Réaumur et du boulevard Sébastopol, qui est aujourd'hui occupé par Monoprix, c'est un immeuble qu'a acquis Félix Potin en 1905, qu'il a fait détruire, reconstruire tel que vous le voyez, de façon absolument monumentale, avec gravé dans la pierre, ça y est toujours, Félix Potin, au-dessus du porche d'angle, et en quelque sorte, cet immeuble est le vaisseau amiral de tous ces ensembles de magasins que Félix Potin exploite sur le boulevard Sébastopol. Mais il y a aussi les fameux mystères, dont un est exactement touche-touche avec l'économie parisienne, 31 rue des Gravilliers. Et puis il y a aussi Damois, qui est bien installé sur le boulevard Sébastopol et rue Saint-Martin. Les mesures prises par les administrateurs ne sont sans doute pas à la hauteur du danger. La première solution qu'ils trouvent, c'est de remplacer les vendeurs, hommes, payés 45 francs par semaine, par des vendeuses qui n'en coûtent que 33. on est coopérateur, mais autre mesure, modeste aussi, on double les frais de livraison. Et de surcroît, on les met à la charge des bénéficiaires, parce que jusque-là, c'est la coopérative qui payait elle-même les frais de livraison. Et puis, on décide de fermer certaines régions. Mais tout ça n'aura beaucoup d'effet. Et 6 mois plus tard, la coopérative est en déficit. Encore 6 mois. Et là, on est à l'automne 1911. Là, ça se précipite. Là, c'est la panique. Et on dit non, c'est pas vrai. Il faut quand même se rendre à l'évidence. La coopérative ne peut plus concurrencer le grand commerce capitaliste. Alors, il faut dire à ces problèmes qui, à l'époque, vont concerner l'ensemble des coopératives et pas seulement l'économie parisienne, dans le 3e arrondissement se rajoute un autre problème, qui est celui des expropriations, qui conduisent un grand nombre de travailleurs à quitter l'arrondissement pour aller en périphérie de Paris ou bien en banlieue. L'Assemblée générale approuve les nouvelles mesures que propose le conseil d'administration. Réduction des frais des généraux, on se demande bien comment ils vont faire. Ça paraît quand même un peu, c'est un propos récurrent et qu'il n'y a pas beaucoup de suite. On ferme une succursale, on ne sait pas laquelle. On attendra de faire l'inventaire pour savoir laquelle on va fermer, mais c'est toujours pareil. Il y a des coopérateurs pour considérer que ce n'est pas normal que les habitants ou les voisins de la rue de Poitou soient obligés d'aller jusqu'à la rue des Gravilliers. Grenetta, qui va se passer, Grenetta, certains font observer que Grenetta, attends, ce n'est pas notre arrondissement. Dans le premier arrondissement, il faudrait peut-être aussi, ou le deuxième, il faudrait peut-être faire leur coopérative aussi. Hein. Enfin, donc on ferme une succursale. Et alors, ce qui est le plus grave, c'est ça, alors c'est vraiment une décision absolument tragique. On supprime le service médical gratuit. Et toutes les subventions, y compris celles que faisait la coopérative, à la solidarité mutuelle. Le bout de l'affaire est maintenant assez proche. Rien n'y a fait. Les mesures n'ont servi à rien. Le chiffre d'affaires s'effondre. Les effectifs ont fondu. En 1912, les coopérateurs ne sont plus que 400. Et sur ces 400, il n'y en a que 120 qui participent à l'Assemblée générale. Donc il n'y a pas le quorum. Juste à la veille de la guerre, en mars 1914, les administrateurs font état, pour la première fois, de la réunification des deux courants du mouvement coopératif, le grand socialiste et le grand que j'ai appelé neutraliste. Cette réunification, elle est intervenue 2 ans plus tôt. Mais apparemment, personne ne s'en était aperçu dans la coopérative et je n'y ai trouvé strictement aucune allusion. Et les administrateurs font également état de la nécessité d'opérer des fusions entre coopératives pour avoir des unités d'entreprise plus costauds, plus fortes et mieux à même de faire face à la concurrence du grand commerce capitaliste. Les administrateurs expliquent aux coopérateurs que ces fusions se feront en douceur. Personne n'y perdra, bien au contraire. Par exemple, à Paris, on peut imaginer des fusions autour de 2 coopératives qui seraient 2 pivots. Et ça serait qui, ces pivots? Eh bien, ça serait nos amis de l'égalitaire du 20e arrondissement et la bellevilloise du 18e. C'est des coopératives socialistes. Donc, vous voyez que nos coopérateurs, là, ils n'y voient pas de mal. Ils disent que bon, on aimerait autant pas, mais enfin bon, c'est quand même pas grave. Et par conséquent, juste à la veille de la guerre, ils donnent mandat à leur conseil d'administration pour engager des pourparlers dans cette perspective. La guerre interrompt le processus. Lors de l'unique assemblée générale que tient l'économie parisienne pendant la guerre, en 1917, il n'y a plus que 6 administrateurs et il ne reste plus à la coopérative qu'à compter ses membres au front et à envoyer des colis aux administrateurs et aux vendeurs mobilisés. Au lendemain de la guerre, il ne faudra pas moins de 6 assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, pour sceller le destin de l'économie parisienne. L'égalitaire et la bellevilloise ne font pas partie de la fusion et resteront assez durablement dans le paysage coopératif parisien, et notamment la bellevilloise qui a dû rester jusqu'à la fin des années 30, enfin... qui c'était vraiment la plus importante coopérative parisienne, avec un rôle très très important, notamment en matière de culture. Il y a des thèses qui sont faites sur le rôle de la bellevilloise dans la culture de l'époque, de l'avant-deuxième guerre. Donc ceux-là sont restés en dehors, et franchement, on demande plus aux coopérateurs s'ils sont contents d'aller avec une chose qui s'appelle l'Union des coopérateurs parisiens, parce qu'il n'y a plus d'espoir, parce que c'est la fin. Il y en a bien certains qui continuent de dire, et ils n'ont pas tort, parti comme on est, la coopérative ne sera bientôt plus qu'un seul mot, un mot comme ça, et pour le reste, les coopératives seront devenues des commerces, comme les autres, qui auront perdu leur esprit. Ils n'avaient pas complètement tort. Donc, 25 avril 1920, les coopérateurs qui se retrouvent peu après 4 heures de l'après-midi sur le trottoir du 29 de la rue des Gravilliers, après avoir voté la dissolution de leur coopérative, elles n'ont pas trop le cœur à blaguer, parler sur le trottoir ou à la buvette, comme c'était le cas habituel à l'issue des assemblées générales. Les jeux sont faits. Le vote qui vient d'intervenir scelle la fusion, mais il met fin aussi à une aventure dans laquelle s'étaient investis pendant près de 30 ans des centaines d'habitants du quartier au nom de l'idéal coopératif. Et bien désormais, après 1920, les magasins de l'économie parisienne seront exploités sous l'enseigne COP, comme tous les magasins des coopératives fusionnées, que ce soit à Paris ou dans les régions. Ces magasins coopératifs à Paris, arborant l'enseigne COP, sont au nombre de 345, qui n'est pas rien, regroupant quand même 60 000 sociétaires, bien évidemment plus les mêmes sociétaires, plus les mêmes pratiques, etc., que ça avait été du temps de l'économie parisienne. Et le point final, le magasin historique de la rue des Gravilliers ferme ses portes en 1933. Et en 1946, c'est le tour du magasin de la rue du Poitou. Et à partir de ce moment-là, l'enseigne Coop disparaît définitivement du 3e arrondissement. Voilà, j'ai été un peu vite parce que je pense qu'il y aura plein de questions et des points sur lesquels on pourrait apporter des compléments.
Bon, mais je crois que... Merci, chère Claudine, de ce très riche exposé qui nous fait mieux comprendre, je trouve, l'esprit du quartier,
oui,
et puis
crois.
Un certain nombre de nos lecteurs, parce que c'est
oui.
un peu ces gens-là qu'on retrouve ici.
Oui.
On trouve aussi dans notre catalogue un certain nombre de livres donc,
sur les coopératives, sur les associations ouvrières, dont procèdent les coopératives de consommation tout de même. Bon, j'avais donc un peu par hasard mis la main sur les archives de cette coopérative. C'était assez improbable parce que c'est quand même pas une coopérative qui a eu une notoriété telle que je pouvais espérer la trouver. Ainsi tous ces papiers, dans la bibliothèque d'histoire du mouvement social, etc., où je l'ai trouvé, ça a donc été une source extrêmement décisive. En dehors de ça, pour tout ce qui concerne les métiers, la structure économique, les transports, je sais tout sur les transports en 3e arrondissement depuis 1605. Tout également, les dates, les rues, quand, comment ça fonctionnait avant qu'il y ait tout à l'égout, etc. L'habitat, évidemment, donc ça c'est des archives et des sources qui sont aux archives de Paris. Y compris un truc qui est tout à fait extraordinaire quand même à Paris, c'est ce qu'on appelle les calepins du cadastre. Chaque immeuble parisien a un petit dossier sur lequel, vous savez, au premier étage, qu'est-ce qu'il y a, la disposition, le rez-de-chaussée, etc. Mais je pourrais écrire comme ça là-dessus, et c'est sûr que j'ai ramassé infiniment plus d'éléments et de données que je n'en pouvais utiliser dans une petite plaquette et à forgerie dans un exposé. Voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'étaient devenus les immeubles dont j'avais parlé là-dedans. Ben, il y avait quand même quelques grandes entreprises dans le quartier à l'époque. Il y avait les magasins réunis, il y avait les nouvelles galeries, il y avait des grandes bijouteries qui faisaient vraiment du travail en série.
Il y a un élément que je n'ai pas entendu apparaître, qui m'étonne, c'est y a-t-il eu un lien coopérative, consommation, bien, que j'attendais au travers des métiers que le passé avait indiqué, avec des coopératives ouvrières de production. Est-ce qu'ils ont, compte tenu du fait qu'ils étaient plus chers sur certains produits, qu'ils avaient indiqué, Est-ce qu'à un moment donné, ils se sont dit, tiens,
si on fabriquait
nous-mêmes des éléments comme ça,
ils ont essayé.
Le marché,
ils ont essayé
de
pour des coopératives dans des secteurs d'articles ou de produits où il y avait des coopératives ouvrières de production. Bon, il y en avait notamment dans la viticulture. Dans l'alimentaire, il y avait quelques coopératives, mais comme expliquaient les administrateurs, il n'y en a pas assez pour qu'on puisse fonder notre approvisionnement sur des sociétés coopératives. Alors, on leur disait, on leur a dit au fil des années, mais avec le développement du mouvement coopératif, ça va se répandre partout et à un moment on arrivera. Ça n'a pas été le cas. Alors, il y avait dans le quartier des coopératives ouvrières de production, il y avait des coopératives d'horlogerie, il y avait des coopératives de fabrication de parquets, il y avait des coopératives de lunetterie, parce qu'il y avait beaucoup de lunetterie dans le quartier, il y avait des coopératives de fabrique de jouets, mais c'est pas avec tout ça, ça c'est pas trop des, voyez, des articles sur lesquels pourraient se fonder. Alors, ce que je voulais quand même dire, et que j'avais donc avancé, c'est que au début des années 1980, les coopératives de consommation représentaient en France le premier groupe de distribution. C'était les magasins Coop, complètement concentrés, qui avaient bâti un siège social grandiose à Boulogne, sur les bords de la Seine, un truc absolument monumental et fabuleux. On a oublié que les coopératives de consommation ont, en ce temps, racheté la FNAC. Et voilà, et donc, à cette époque-là, le mouvement coopératif pouvait s'enorgueillir de rivaliser et d'être même en avant de la grande disparition et capitaliste. Ça semblait vraiment donner raison aux promoteurs qui, en 1912, avaient dit « il faut foncer, il faut se concentrer, il ne faut pas avoir peur, etc. » Bon, eh bien écoutez, moins de 10 ans plus tard, il ne restait rien. Les coopératives régionales sont toutes effondrées les unes après les autres. Toutes, elles ont déposé leur bilan et tout s'est effondré. Comme un château de cartes, ça s'est fait en rien de temps. Certains ont dit que c'était mal géré et tout. Ça a été géré de façon capitaliste, sans avoir les moyens, mais en ayant en revanche les contraintes du mouvement coopératif. Vous voyez, bon, on en prenait, on en laissait avec les principes coopératifs, mais quand même, il y avait des décisions qui ne pouvaient pas être prises comme ça aussi facilement que M. Carrefour ou M. Machin ou M. Félix Potin, dans le vieux temps, pouvaient prendre des décisions. Il y avait une pesanteur. Bon, d'autre part, la proximité était quotidienne. C'était au départ des coopératives de quartier. Et même ensuite, quand c'est devenu des magasins Coop, qui dépendaient de grandes entités coopératives, il reste que, entre les exploitants de ces magasins Coop, et la clientèle, qui était une clientèle de quartier, de proximité, il y avait des liens qu'on imagine, qui évidemment rendaient particulièrement difficile de fermer toutes ces boutiques. On explique ainsi, et je crois que c'est très juste, le fait que les coopératives ont beaucoup, beaucoup tardé à ouvrir des supermarchés, des hypermarchés, etc. Et je dirais que quand elles se sont lancées là-dedans, d'abord, c'était un peu cuit, hein, je veux dire, c'était un peu tard. Et en plus de ça, du coup, elles ont absolument perdu leur lien avec la base. Oui. Et les coopérateurs de base, quand ils ont vu qu'on bradait leur petit point d'ordre, ils ont dit, j'ai rien à faire, je vois pas pourquoi j'irai acheter là plutôt qu'ailleurs. Quand il était basé avec son siège social sublime à Boulogne, etc., ce mouvement coopératif avait une grosse activité de production. Hein, ils produisaient leurs conserves, ils produisaient leur café, ils produisaient des tapés de trucs.
Est-ce qu'on peut vous poser une question sur l'origine du fonds d'archives que vous avez exploité?
Actuellement, il est au musée social. Bon, il s'est passé la chose suivante. Pour des travaux que j'avais menés après la disparition du mouvement coopératif, j'avais mis la main sur un lieu qui était à Courbevoie, je crois, où les archives des coopératives de consommation étaient entreposées. Il y avait un gardien à qui il fallait téléphoner à l'avance. J'avais dû trouver mon bonheur à l'époque. Quand je me suis embarquée sur l'histoire et la coopérative du 3e arrondissement, le bâtiment existait toujours, totalement abandonné, J'ai téléphoné à quelque chose qui s'appelle peut-être toujours encore la Caisse centrale de crédit coopératif, qui maintenant est basée à Nanterre. J'ai posé la question, sans la moindre idée, mais ils m'ont dit, rue de Bercy, là, vers là, le siège de la RATP, il y a quelque chose qui a à faire avec coopérative de consommation. J'ai téléphoné et on m'a dit, eh bien oui, tout à fait, les archives ne sont plus à bord de moi, elles sont maintenant domiciliées à la Garenne-Colombes, à quelque chose qui s'appelle la bibliothèque d'histoire d'économie sociale ou un truc comme ça, et c'est tenu, pas tous les jours, faut téléphoner là encore, par un monsieur qui s'appelle Paulin Desroches, le fils du célèbre Desroches, qui a été le pape de la coopérative de consommation en France. Enfin, j'y ai été quand même beaucoup, beaucoup de fois. Et un jour, c'était à la veille des vacances, j'ai, avec évidemment son accord, photocopié tous les documents sur mon économie par exemple. J'ai même photocopié des extraordinaires affiches. La suite est très triste, mais j'ai bien fait de le faire parce que l'été suivant, Paulin Desroches est mort. La Garenne-Colombes a été bouclée. Comment a fini cette histoire? Ça a terminé au musée social. Le musée social rue Lascazes, le musée social qui avait très peu de documents chez les coopératives de consommation, mais qui a des connexions extraordinaires par ailleurs, a accepté de prendre la totalité des archives. Et bien voilà, l'économie parisienne qui a fonctionné si près du lieu où nous sommes là, je pense que c'est aussi une façon d'avoir travaillé dessus et de vous en parler, d'en parler ensemble, c'est quand même une façon de rendre hommage. Et dans ce lieu, de surcroît, c'est une façon de rendre hommage à ces gens, à ces centaines de gens, ils y ont cru.
Quels étaient les rayons de
cette... Ils avaient évidemment l'alimentation, ils avaient évidemment les boissons, ils avaient tous les articles de ménage, ils avaient les chaussures, ils avaient des vêtements, oui. Ils avaient du tissu au mètre, ils avaient de la mercerie, ils avaient des bougies, ils avaient... oui, ils avaient tout ce qu'on imagine... J'ai un catalogue, vin et liqueur, articles de ménage, pantoufles, chaussons, bottines, en drap. Il y a des choses qui s'appellent des hongroises.
C'est quand tu l'as pour tourner, c'est comme du dame.
Peut-être, voilà. Mais il y avait de la parfumerie. La pommade de moelle de bœuf.
Il y avait
tout.
C'est utile à quoi?
Il y avait aussi la morue, les pois cassés. Les pruneaux, le vermicelle. Les coopérateurs regroupés, ils achètent directement à la production. Donc ils économisent la marge que prélève le grossiste, le détaillant. C'est ça le principe. Et c'est en fonction de ça qu'ils achetaient une ou plusieurs parts de capital social. Et c'était... Mais la coopérative ne rend pas.
C'est quand même des parts.
Oui, c'est des parts. Mais qui restent dans le... Comme j'ai dit, c'est un homme une voix. Hein. Vous pouvez avoir les parts que vous voulez, c'est un homme une voix.
Ça n'était que des hommes, non?
Alors écoutez, ce n'était pas que des hommes, mais quand même, dans les assemblées générales, on rencontre que les hommes, à vrai dire. J'ai pas vu d'administratrice. Je ne les ai pas rencontrées dans mes assemblées générales. Bon, je sais par exemple que les conférences éducatives ont eu un succès fou. Les membres de la coopérative participaient à cette université populaire du 3e qui a reçu pour une conférence M. Lénine, soi-même. Et j'ai eu entre les mains l'affiche en russe. Mais il y avait d'autres gens. Je ne l'ai pas suivi. J'avais repéré ça parce que les programmes des initiatives des universités populaires était publié dans le journal L'Humanité. Mais j'ai pas travaillé suffisamment là-dessus. Là, Lénine, bon, c'est autre chose. Mais des grands noms de la médecine, des littérateurs très connus qui venaient donner une conférence dans les universités populaires. C'était très actif, les universités.